cette semaine, tout d'abord, je vais vous rapporter quelques nouvelles espagnoles. La police espagnole a arrêté à Anglès, dans la province de Gironde, un distributeur de matériel néo-nazi. La police catalane a arrêté Jordi R.P., âgé de 21 ans, qui est accusé de délit contre les libertés publiques et apologie du nazisme et du génocide. L'inspecteur Josep Sala pense avoir neutralisé le plus grand distributeur de publicité néo-nazi de Catalogne et sûrement le plus important en Espagne. Le New Glory Distribution offrait depuis 4 ans son sale matériel à travers des spots dans les pages web à idéologie nationale-socialiste. Les commandes se faisaient à travers email ou courrier postal. On a trouvé des livres sur Hitler, Goebbels, des badges de Rudolf Hess et du groupe néo-nazi Blood and Honor, de la Union Skinhead d'Espagne, des Vikings de Llobregat, des articles contre l'immigration, contre l'avortement, contre les drogues, et la couverture des CD représentait des juifs morts dans les camps de la Shoah et des personnes maltraitées. Voilà une des nouvelles espagnoles. Une autre nouvelle, c'est la date 31 mars 1492. La date de l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne. Vous pouvez écouter cet intéressant programme à Radio Sefarad, à Efemérides. La déclaration de Isaac Abravanel est extrêmement intéressante. On dit que des 200 000 Juifs qui étaient là, 150 000 préférèrent l'exil plutôt que de se convertir, partir vers la Grèce, la Turquie, l'Égypte, l'Afrique du Nord, Israël. Seulement en 1978, le roi Juan Carlos, à las Cortes, assurait l'annulation du décret d'expulsion. Et je vous propose de l'écouter à Efemérides dans Radio Sefarad. À propos de ça, il ne faut pas oublier que la Turquie fut le refuge doré des expulsés d'Espagne. L'Empire turc était une grande puissance à l'époque. Constantinople était la seconde Rome, et quand elle fut prise par les Turcs en 1453, ce fut un grand chamboulement dans le monde chrétien. En fait, tout allait changer, et tout d'abord le nom de la ville. Elle ne sera plus Constantinople ou la ville de Constantin, avec ses réminiscences grecques et chrétiennes. Elle s'appellera Eistenpolin, qui veut dire en grec « vers la ville ». Un grand nombre de juifs d'origine grecque, les Romagnotes, arrivent quand Mehmed II s'installe en 1453 dans Eistenpolin, ou Istanbul. Ils savent qu'avec les Turcs, ils vivront mieux qu'avec les chrétiens. Et pour cause, Mehmed II, qui veut relancer la ville, demande à tous les juifs vivant dans son royaume de s'installer à Istanbul. Il pense qu'avec une communauté juive importante, la nouvelle ville sera plus moderne et plus puissante. Le rabbin Serfati dirige une lettre à tous les juifs d'Europe centrale pour qu'ils viennent s'installer dans ces terres de Turquie où il fait bon vivre pour un juif. Romaniotes, grecs, ashkénazes, tous vont vers la Turquie. L'émigration des séfarades vers l'Empire commence avant 1492 en fait. 100 ans avant, lorsque leur vie en Espagne devient insupportable, beaucoup se dirigent de l'autre côté de la Méditerranée. La marche est longue. Les uns font escale au Portugal, en Italie, en Afrique, mais beaucoup désirent surtout aller en Turquie. Après l'expulsion, ils se dirigent en masse vers le pays où le sultan appelle les juifs. La Via Egnatia, la voie romaine, qui s'étend de Dubrovnik à Constantinople, se remplit de judéo-espagnols qui marchent et s'installent dans les villages désertés en leur donnant des noms de villes espagnoles. La communauté juive de Salonique se voit doublée et d'autres villes sur le trajet comme Venise, Drama, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Belgrade, Nice, Sofia, Edirne se voient envahies de ces Espagnols. Bien que leur destination est Istanbul, beaucoup resteront dans ces villes où survivent encore aujourd'hui des communautés juives. En 1492, beaucoup de juifs embarquèrent à Cartagena sur la côte espagnole, dans de vieilles caravelles appelées Caracas, que Luis de Santángel et Francisco Pinedo avaient affrétées pour eux. D'autres qui venaient de la couronne d'Aragon embarquèrent à Barcelone et à Valence. C'est la ruée vers le pays qui les appelle à une époque où ils sont maltraités et expulsés de leur pays. Le sultan Bayazid II, qui les accueille et leur donne l'hospitalité, dira des rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, qu'ils sont bêtes et maladroits, car l'expulsion des Juifs d'Espagne va appauvrir leur pays et enrichir le sien. Et c'est ce qui s'est passé. Nicolas de Nicolaï, un Français qui accompagnait l'ambassadeur de France d'Aragon, raconte dans son livre « Les navigations et voyages faits en Turquie » l'importance de la population juive et l'énorme bénéfice qu'a apporté au pays l'émigration massive des Juifs d'Espagne et Portugal. D'après Isaac Abravanel, 10 000 judéo-espagnols arrivèrent à Istanbul. Après l'expulsion d'Espagne, Istanbul devient la ville où la présence juive est la plus importante au monde. On dit qu'il y avait 150 000 juifs en 1594. Les communautés s'organisent très rapidement car elles apportent avec elles leurs coutumes espagnoles et leur système d'organisation communautaire. L'Istanbul juive ressemble vraiment à une ville espagnole. Les coutumes, la littérature, les poèmes, les pièces de théâtre, tout était en espagnol. C'est d'ailleurs en Turquie que le ladino s'est le mieux conservé et encore aujourd'hui on entend parler dans certaines familles le ladino le plus pur. Ces juifs d'Espagne vont remplir des fonctions de haut rang. Ils apportent au sultan toutes leurs connaissances de l'Espagne de l'âge d'or. Ils sont les meilleurs dans beaucoup de fonctions comme la médecine par exemple, mais ils parlent aussi des langues étrangères, ce qui leur ouvre les portes de la diplomatie. Salomon ibn Verga parle d'un médecin à Grenade, Isaac Hamon, qui fut le médecin de Moulay Hassan à Grenade. Celui-ci fut longtemps malade et fit appel au médecin juif. Isaac et son fils Joseph serviront aussi Boabdil jusqu'à sa reddition. Et ils partiront comme les autres lorsqu'ils comprennent les intentions des rois catholiques. Et devant le choix de se convertir ou tout abandonner et partir, ils sortent de Grenade et préfèrent partir avec leur identité et leur foi et leurs souvenirs. Ils préfèrent, comme tant d'autres, la solitude de l'exil que la vie des maranes. Isaac Hamon émigre en Turquie avec son fils Joseph et toute sa famille. Ils sont reçus royalement par la communauté. Le sultan Bayazid, qui apprend qu'un grand médecin de la cour de Grenade vient d'arriver, le fait appeler. José Hamon sera le médecin du sultan Selim et à sa mort, son fils Mossé lui succède auprès de Suleyman, le fils de Selim. Être médecin de cour comportait des dangers énormes. On imagine vite que les relations avec un prince ambitieux et despote n'est pas facile. Mais les Hamon furent très habiles. José, qui avait obtenu la confiance de ses monarques et l'amitié de toute la cour, n'oublia cependant jamais ses frères et intervint toujours en leur faveur. Mais un jour, Bayazid lui demanda de se convertir à l'islam. Il lui donnait 3 jours pour se décider. S'il apparaissait devant lui avec un turban blanc, cela voudrait dire qu'il acceptait. Au bout de 3 jours, comme il ne venait pas, il le fit appeler. Hamon apparut sans turban et portant l'habit juif. Il dit au sultan, « Prince tout-puissant, écoute avec clémence mes paroles. Si les juifs avaient voulu renier de leur foi en retour de faveurs terrestres, nous ne serions pas aujourd'hui dans ton empire. Nous serions restés dans notre pays natal, l'Espagne, pays que nous aimons comme notre patrie. Mais comme nous avons été sommés de trahir notre foi, la foi de nos pères, celle qu'ils avaient maintenue envers et contre tout, nous avons refusé de toutes nos forces d'abandonner notre bien le plus sacré. Nous sommes donc revenus sous ta protection parce que nous savions que tu étais sage et juste. Nous avions confiance que dans ton royaume, nos convictions religieuses ne seraient pas questionnées. Aussi, si tu maintiens ton ordre, ô puissant souverain, malgré mon entière soumission envers toi, je me vois dans l'obligation de désobéir cet ordre, et seulement celui-là, au risque de perdre la vie. Le sultan fut surpris par ces paroles et après un moment de réflexion, il dit « J'admire ta fidélité, je loue la fermeté de ton caractère et je maintiens mon estime envers toi. » José Hamon accompagna le sultan Selim en 1517 dans sa campagne en Égypte, mais au retour il tombe malade et meurt à Damas en 1518. Il était arrivé avec son père en 1492 de Grenade, où il était né en 1450. À sa mort, Selim II nomme son fils Mossé, qui restera comme médecin de cour de Soliman II. Le médecin du roi était en fait aussi son conseiller, et Mossé, comme ses pères, n'oubliera jamais son peuple. Ibn Verga raconte que pendant la campagne de Perse de Soliman, le roi de cet empire perse avait décrété que les juifs devaient porter un habit infamant. Mossé intercède et obtient que cette humiliation soit annulée. 10 ans plus tard, il intervient à Istanbul en faveur des siens, que l'on voulait accuser de 1000 choses encore. Il est l'homme de confiance de Soliman et un des plus grands dignitaires de la sublime porte. Le traité de paix signé avec la République de Venise en 1540 fait mention de Mossé Amon. Il y est récompensé. Nicolas de Nicolaï parle de Mossé dans son livre. Il a une grande autorité près du sultan et sa cour. Il est respecté de tous pour sa sagesse et sa médecine. C'est un homme de bien. Il s'intéressa pour la culture et créa des écoles qui donnèrent de grands rabbins et talmudistes. Il intervint souvent comme pacificateur dans sa communauté. En 1545, la peste fait beaucoup de victimes et un grand incendie va détruire 5000 maisons à Istanbul. Il y aura 200 morts. Les rabbins clament au châtiment. À travers ces lettres qui sont conservées à la bibliothèque Montefiore de Londres, on apprend et on comprend les problèmes de ces communautés et comment Mossé Amon est arrivé à les pacifier. On pourrait raconter tant de choses encore sur cette famille de juifs de Grenade émigrés à la sublime porte qui ont apporté et développé toute leur science là-bas. Ils auraient bien voulu le faire à Grenade, mais Grenade leur avait fermé ses portes et avec cela s'était fermée elle-même à la science et à la culture. Martine Lasserie pour Radio Sepharad.
Tres hermanicas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor, su padre con vergüenza a rodas la envió. En medio del camino, blancas de rosa y ramas de flor, en medio del camino, castillos le fracó. De piedra menudica, blancas de rosa, hay ramas de flor. De piedra menudica, yechicos alrededor. Varones que los hubo, blancas de rosa, hay ramas de flor. Varones que los hubo, a la mar ya se echó. Nadando y navegando, blancas de rosa y ramas de flor. Nadando y navegando, al castillo arribó. Échame tus trenzados, blancas de rosa y ramas de flor. Échame tus trenzados, que arriba subo yo. Y al hecho sus trenzados, blancas de rosa y ramas de flor. Y al hecho sus trenzados, arriba los subió.